Bien, on va commencer. Tout a une fin. Donc après ma dernière leçon hier dans l'amphithéâtre Marguerite de Navarre, c'est aujourd'hui le dernier séminaire. Et pour ce séminaire, donc c'est pour cette séance de séminaire qui porte sur l'individualisme, j'ai demandé à Emmanuel Grimaud d'intervenir. Emmanuel Grimaud est un ethnologue un peu hors normes, ils sont tous un peu hors normes, mais lui, je crois tout particulièrement, par la diversité de ses centres d'intérêt. Alors, c'est un indianiste, et il a commencé en étudiant, au fond, on peut dire que ce qui l'intéresse depuis longtemps, c'est l'image et la façon dont l'image rend visible quelque chose, rend visible des présences. Et il a commencé à étudier ça à Bollywood, sur lequel il a consacré sa thèse. Il était assistant dans ses studios de cinéma indien, qui ont une production absolument considérable. Et puis, il a travaillé sur d'autres aspects de la civilisation indienne contemporaine, et notamment sur des ateliers de fabrication d'automates divins, et sur la façon dont ces automates étaient mis en œuvre, mis en branle dans des manifestations rituelles publiques. Et ça l'a conduit à s'interroger sur, au fond, le statut des automates, des robots, au fond, la vie publique. Et qu'est-ce qu'on voit dans un robot? Est-ce que c'est un substitut de divinité? Est-ce que c'est une façon de faire, d'évoquer quelque chose d'une divinité? Et cette ligne de recherche, il l'a développée en s'intéressant tout particulièrement à la question de la robotique au-delà de du contexte indien. Et il m'a paru que c'était, au fond, une façon très intéressante de considérer la notion d'individu. Au fond, est-ce qu'un robot est un individu, surtout dans le contexte indien, où la transmigration, la métempsychose joue un rôle important, qu'est-ce que c'est qu'un individu dans un contexte de ce type-là, à la fois humain et un artefact. Et donc, voilà, ce sont des questions, je ne sais pas ce qu'il va dire, mais connaissant ce qu'il a déjà fait, je suis sûr que ça va être absolument passionnant. Donc, merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci Philippe, bonjour à tous. Merci pour cette invitation. Je suis ravi d'être là aujourd'hui. Les affaires de transmigration dont je vais parler sont peut-être au fond une bonne manière de conclure un séminaire sur l'individu. Alors, ma réflexion n'est pas du tout stabilisée en la matière, et ça va être un peu des bribes ou des pistes de recherche dont je vais partager avec vous. Et je serais très heureux d'avoir les réactions de Philippe et de vous tous. Alors, je vais commencer par une idée assez banale. Quand on regarde les prophéties et les scénarios futuristes auxquels notre époque se nourrit, la dissolution de l'humain apparaît comme une sorte d'épouvantail qu'on agite de plus en plus régulièrement. Alors, pour certains, ça sera sous l'effet d'une catastrophe majeure, écologique, nucléaire. Mais pour d'autres, et je pense à des gens sérieux, notamment James Lovelock, qui est l'auteur de l'hypothèse Gaïa, ou la biologiste Lynn Margulis, un genre de transmigration de l'humain serait en train de s'opérer vers une forme de vie électronique, envisagée comme le prochain stade du vivant. Alors, c'est une forme de vie qui nous parasite un peu pour se développer, parce qu'on ne peut pas s'empêcher d'investir dans l'intelligence artificielle et d'être toujours plus dépendant de nos outils technologiques. Nos cerveaux, nos vies seraient en quelque sorte les hôtes principaux de cette vie électronique émergente. Alors, ce qu'on appelle la singularité technologique, c'est la version la plus pop de ce scénario. C'est l'idée que l'évolution de nos machines atteindra un jour prochain, alors tout le monde n'est pas d'accord sur la date, un seuil de développement tel qu'elles dépasseront les humains en capacité et qu'on basculera dans une sorte de monde imprévisible, marqué par l'émergence d'une vie électronique sans précédent. Alors l'équivalent pour la vie artificielle de l'explosion du Cambrien pour le vivant. Alors, c'est Werner Winge, un écrivain de science-fiction américain, qui est professeur de maths et d'informatique à San Diego, ce qui est toujours amusant aux États-Unis, c'est qu'il pouvait donner des chaires de mathématiques à des écrivains de science-fiction, et qui a proposé la version la plus, je dirais, populaire de cette théorie. Mais c'est une vieille idée, en fait, qu'on va retrouver alors, chez Teilhard de Chardin, sous une forme plutôt optimiste, d'ailleurs, puisque Teilhard appelait ça le point oméga, une sorte de seuil où l'humain arriverait à une forme de dématérialisation totale via les technologies de la cognition, où tous les individus communiraient dans la noosphère. Et on retrouve la même idée aussi chez Turing, dans une certaine mesure, sous une forme un peu plus ironique. Chez tous ces auteurs, en fait, l'idée, c'est que si on pousse la technologie à son terme, c'est ce qu'ils nous disent, elle ne peut que conduire à toujours plus de dématérialisation de l'humain, voire à la dissolution complète de l'individu. Alors, c'est une théorie paradoxale, puisqu'elle envisage la dissolution comme le point d'aboutissement du progrès, mais elle est très prégnante dans le milieu des ingénieurs de la Silicon Valley et chez les transhumanistes en particulier. Alors, ce qui est amusant avec cette théorie, c'est qu'au lieu de sonner comme une sorte de mise en garde, un scénario catastrophe qu'on pourrait éviter en détruisant toutes les machines qui nous entourent, c'est d'ailleurs ce qu'avait proposé Samuel Butler à la fin du 19e, il avait dit qu'il faut détruire les machines absolument avant que l'homme soit pour la machine ce que le cheval et le chien sont pour l'homme. Ceux qui ont adopté la singularité technologique comme prophétie voient dans la perspective de la dissolution de l'humain une sorte de moteur formidable d'invention technologique. Alors, c'est des instituts de cryogénisation, des expériences de téléchargement de l'esprit, projet russe d'ailleurs qui est largement plébiscité par le Dalai Lama. Je vais vous montrer une photo parce que c'est amusant. Voilà. Cette intervention sera sous le patronage du Dalai Lama. Alors, plateforme d'immortalité aussi, où l'enjeu est, je dirais, d'organiser la survie digitale des individus et de voir si ces traces, alors simulées ou reconstruites de nous-mêmes, pourraient bien constituer des simulacres viables de nous-mêmes. Alors, toutes ces initiatives rejouent, à travers l'humain augmenté, un vieux fantasme, enfin, une vieille recherche d'immortalité. Mais ce qu'il y a d'intrigant dans cette histoire d'immortalité cybernétique, qui peut évidemment laisser perplexe, c'est qu'elle ressorte la transmigration des tiroirs pour en faire un problème essentiellement technologique. Alors, quand on voit ce que devient peu à peu Internet, c'est une gigantesque matrice dans laquelle transmigrent des contenus, des voix, des images, et ce sur quoi travaillent les transhumanistes, la symbiose de l'électronique et du biologique. Alors, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a quelque chose comme une forme de modèle en train de naître sous nos yeux, sans qu'on sache vraiment où ça nous mène pour le moment, qui est une forme de transmigration électronique, un modèle numérique de la transmigration, dont l'unité serait constituée par du code d'information. Alors, est-ce que ces formes de réincarnationnisme avec et par les machines sont inédites, ou au contraire des formes anciennes remises au goût du jour? Est-ce qu'il s'agit de formes sécularisées, de formes religieuses? Serions-nous tous en train de devenir des transmigrants sans le savoir, ou aurions-nous déjà opéré notre transmigration électronique, j'entends? C'est une question qu'on peut se poser. En tout cas, la transmigration version brahmanique, le samsara, cycle des renaissances, littéralement ce qui circule, avait déjà quelque chose d'une matrice, bien avant Internet, où circule une foule de composantes, des éléments de personnalité, des tendances, des pulsions, des traits de caractère, des éléments de conscience, des fragments de mémoire, et peut-être même du code. Il y aurait sans doute une histoire à faire de ces matrices, qui sont des grosses machines cosmiques, un peu dévorantes, qui aspirent le vivant pour le régurgiter autrement. Le samsara, c'est peut-être un des plus beaux modèles du genre. Alors, on peut trouver curieux que la transmigration numérique se nourrisse de la dissolution des personnes. En même temps, je pense que ce n'est pas très nouveau. On n'a pas attendu d'essayer de télécharger un cerveau ou que les personnes laissent une foule de traces d'elles-mêmes sur Internet pour inventer des formes de multiples d'individus distribués, de dividu, comme disent les anthropologues. Lévi Brull, qui a écrit un ouvrage remarquable qui s'appelait « L'âme primitive » à ce sujet, où il a inventorié toutes les manières pour les sociétés dites primitives de téléporter de la personne dans des choses. Et la mort est souvent au cœur de tout ça. Mais dans la phase d'expérimentation historique que nous vivons, les spéculations même les plus anciennes, brahmaniques, autour de la réincarnation sont extrêmement instructives. C'est, semble-t-il, toujours au contact de la mort que la question de l'individu en Inde s'est posée avec le plus de vivacité. Et Michel Hulin, qui est un philosophe indianiste, l'avait très bien montré. Brahmanes et bouddhistes se sont livrés à plusieurs siècles de polémiques, en gros depuis le VIe siècle avant Jésus-Christ, sur ce qui transmigrait en transmigration. Quel composite, quel principe vital. Et c'est toujours en référence à ce moment critique de la mort qu'on s'est posé la question de ce qui entrait, au fond, ce qui constituait fondamentalement l'individu, la conscience, etc. Alors, je ne vais pas résumer ces spéculations qui ont été d'une créativité remarquable et qui se sont développées, sur les champs de crémation, qui étaient les meilleures arènes philosophiques. Mais disons que dans les cybernétiques de la transmigration pré-numérique, la question de savoir de quel agrégat la personne est faite, qu'est-ce qui est susceptible de se reconstituer à l'échelle atomique, par quel processus invisible, c'est au cœur du débat. Et on se rend compte que c'est un peu toujours les mêmes énigmes insolubles, mais qui obligent à faire des choix, à redistribuer l'individu dans sa composition interne. Il est généralement conçu comme un mélange de parties stables et de parties éphémères qui varient dans leur dosage. Alors on peut faire varier le noyau, sa partie pivot. Les bouddhistes accusent les brahmanes de croire à un socle, le soi intangible, que les brahmanes appellent l'atman, qui, dans sa version la plus joyeuse, est destiné à faire, en transmigration, un avec l'absolu, le brahman, une sorte d'immensité cosmique pensante, si vous voulez. Teilhard de Chardin appelait ça la noosphère. Et les brahmanes accusent les bouddhistes de nier ce socle, de tout faire pour le saper ou le déréaliser en considérant que le soi intangible, c'est au fond inaccessible à l'expérience ou à la sensation et que l'ego est une illusion d'optique, une pure succession d'instantanés dont la conscience ferait l'unité illusoire. Tout ce qui transmigre alors ne serait qu'un composite d'éléments se pulvérisant et entrant par une sorte de thanatosynthèse, c'est pas eux qui emploient ce terme, mais dans de nouveaux composites ailleurs qui se feraient par embryogenèse. Alors le débat a largement débordé les terrains de crémation, puisque la mort, c'est toujours, c'est toujours le vivant qu'on cherche à penser. Et Pippa Lada, qui est l'auteur d'un traité de l'embryon autour du VIe siècle avant Jésus-Christ, donc un voyant, a eu cette idée tout à fait ingénieuse, mais profondément contre-intuitive, et c'est que l'embryon serait doté d'une sorte de mémoire pleine, qu'il se souviendrait de tout, et notamment de toutes ses vies antérieures, au huitième mois, en gros, quand il commence à être viable. Et il perd cette mémoire à la naissance. Donc, quand il sort du ventre de sa mère, il perd toute sa mémoire. Et alors, c'est très important, ce traité, cette théorie, pour comprendre ensuite toutes les spéculations brahmaniques au sujet de... et puis même les rituels funéraires. Alors, je fais un grand saut dans le temps, mais 12 siècles plus tard, il faudrait regarder cette histoire un peu plus en détail. Je vous renvoie aux travaux de Michel Hulin, si vous voulez, sur toutes ces controverses, c'est très intéressant. Il y a eu aussi quelqu'un, Paul Démiéville, ici, qui a travaillé longtemps sur ces questions, notamment sur le concile de Lhasa, alors qui s'est passé au 8e siècle. Et c'est un concile amusant, parce que le roi du Tibet décide de convoquer des moines bouddhistes et des brahmanes hindous pour résoudre l'énigme de la transmigration. Essentiellement parce qu'il y avait un moine bouddhiste à l'époque qui avait beaucoup de succès et qui proposait aux gens une sorte de méthode de méditation pour sortir du cycle des naissances, une sorte de raccourci vers le nirvana, si vous voulez. C'était un peu le New Age de l'époque. Et alors, il n'y a pas que les transhumanistes qui veulent contrôler leur transmigration, c'était déjà un problème au 8e siècle. Et le roi finit par trancher dans ce débat qui est très long et très intense. On se pose la question de savoir qu'est-ce que c'est que le soi, qu'est-ce qui survit, etc. Et il se range derrière l'avis des brahmanes défendent l'idée qu'on ne peut pas forcer sa sortie du cycle des naissances par une méthode accélérée, si vous voulez. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la spéculation sur ce grand circuit spectral, qui est le samsara, a jamais vraiment cessé. Elle est encore très vivace. Et il y a quelque chose ici d'une énigme ou d'une zone trouble qui perdure et qui n'a jamais vraiment été épuisée par aucune sotériologie. C'est qu'a priori, on ne peut pas faire l'expérience de la réincarnation à moins de mourir. Et pour prouver qu'elle existe, il faudrait pouvoir s'en souvenir à sa prochaine incarnation ou bien parier sur le fait, comme le disait Lévi Brull, qu'il y a des morts qui ne meurent pas. Alors, cette dernière idée, l'idée que les morts ne meurent pas, est très prégnante en Inde. Il y a des rituels de crémation qui semblent assez clairs sur le fait qu'il faut nourrir le corps astral du défunt pour qu'il se réincarne correctement. On nourrit aussi d'ailleurs les autres âmes en errance qui sont en attente de réincarnation, en particulier tous les sadhus qui sont morts sans progéniture. Mais il y a des trous dans cette cybernétique invisible qui alimente une forme de spéculation qui ne s'épuise jamais vraiment. Alors le samsara est plein de trous noirs, ces règles nous sont opaques, à commencer par ce moment où, juste après la mort, on a le choix entre se réincarner ou revenir hanter les vivants. Alors, tous les rituels de crémation sont faits pour permettre le franchissement de ce seuil en toute sérénité et que l'individu se détache de la vie et se réincarne correctement au lieu de revenir. Mais personne ne sait véritablement ce qui se passe dans ce moment où l'âme entre en orbite. Enfin, l'âme ou ce composite, ou je ne sais pas. Alors, pour vous montrer la prégnance du problème, je vais vous montrer un extrait d'un film qu'on est en train de monter. C'est une conversation entre une hypnotiseuse à Calcutta qui met les gens sous hypnose pour aller dans leur vie antérieure, et je vais parler de cette méthode plus loin. Et l'un de ses patients, qui va alors dire quelques mots de ses vies antérieures, et puis il y a un officiant rituel, donc un pujari, qui fait des rituels de crémation et qui est là. Voilà. Et ils sont tous les trois dans un débat. Et c'est juste le début du film.
How did I? I saw four experiences, I remember.
Huh.
One was I was stabbed in a narrow, dark lane, a Banaras type of lane, the Bangalore Putti lane. Then one I had a plane crash. And one I don't know how I'm dying, but when I'm dying, I can see my friend, best friend's face on top of me. Now I'm dying. I don't know what was the reason, I don't know.
When you died the first time, stabbed in your stomach.
No, I don't remember the sequence now.
Oh.
I don't remember.
It's already violent.
No. Manisi, I told you.
Oh, last one I'm tied to a pillar and some guys of horse are whipping me to and then.
But what was your story?
What story?
Mane, who were you? What were
no,
you?
No, but that's been the first time I did this, first I had that this thing. And then I recorded only this four specific scenes and nothing else.
Oh.
And very cloudy. It was on like television, it was not so clear. It was like clouds coming to the
light. So the state of trance should have been deeper. Because when you go deeper into trance, the story begins to unfold. If it is medium trance, you may get images and pictures. If it is deep trance, it's like a movie.
No, I saw like cloudy in my first one.
So your level of trance is not deep.
আত্মার বডির পুনর্জন্ম হয়, আত্মার পুনর্জন্ম হয়,
রাইট,
বডির পুনর্জন্ম হয়। এখন আমার বাবা মারা গেছে, আমার একটা সন্তান হলো 2 বছর পরে, বাবার মতোই আচরণ চলাফেরা করছে। আমি ঠিক করলাম, মনে মনে চিন্তা করলাম, আমার বাবাই এসেছে, কিন্তু আসতে পারে না, বডি তো আসতে পারে না, আসে আত্মা।
I'll tell you a case, a real case, okay? There were these twins who were born in one small village. Dono twins there. Wo ek chota sa gaon mein unka janm hua tha. ঠিক hai? Jab wo 1.5 saal ka the, chote bacche, वो एक दूसरे को नाम से पुकारने लगे, ठीक है? एक लड़का और एक लड़की था, एक लड़की का नाम मंजू था और इसका नाम संजय था, ठीक है? पर उनका नाम इस लाइफ में वैसा नहीं था, डिफरेंट नेम था, पर वो पूर्व जीवन में जैसा उनका डेथ हुआ था वो नाम से पुकार रहे, 1.5 साल का बच्चा, और ये प्रूव हो गया था कि ये जो बच्चा बोल रहा है वो गाँव का नाम भी बोल रहे थे, और ये लोग जाके हम लोगों ने जाके पता लगाया कि वहां पे गांव था और ये संजय और मंजू जो थे ये दोनों को हैंग किया गया था फ्रॉम अ ट्री. ओके एंड द सेम सोल्स वर बॉर्न एज दीस ट्विन्स बट द ट्विन्स हैड नो आइडिया अबाउट दिस ऑब्वियसली.
वी हैव अ बंगाली वर्ड फॉर दैट. पता नहीं था. इट इज कॉल्ड जातिस्वर. Where who can who actually the who can remember their past life?
Jati smaran. So this is what I'm saying. तो बच्चा कोई एक साल तक घूमा नहीं था उसका.
But then, well, I think he agrees with you. But these are very rare cases. Not doesn't happen regularly.
Sir, this is regularly. आपको क्या लगता है? Every soul on this planet will be moving around for 1 year? No, it's not possible.
अच्छा, I have a question for you. I have a question for them. I've heard that there used to be a ghost in that other house, the red brick house, and your sister did some puja and got rid of it.
Upstairs, my guy used to keep on saying that, but there's no one upstairs. I mean, when you go up to the first floor, you feel uneasy when there's no other guests in the room. So when Soheli came down last time and she was doing my session actually, my past life session, so she could feel some spirit there, which you can also feel. And our house is linked to the backside house. So that was a part of the original house, which when my grandfather bought, the owner went back. And that house is lying abandoned, that house. So sometimes what she felt was that spirit keeps coming to, when there's no one upstairs, maybe that spirit was living in this house and her father had sold the house and she had to move away, maybe. Now that house is going to be broken, that backside house.
Right.
So my worry that spirit might come and sit here permanently. It's all in the mind. Now that I've talked to him at night, I'll feel afraid. It's all in the mind.
Là, je vais montrer encore un autre extrait tout à l'heure. Je trouve un bon extrait pour voir à quel point, au fond, on est dans une zone de spéculation qui est d'une certaine façon, toujours bien vivace, où tout le monde n'est pas d'accord. Alors, il y aurait beaucoup à dire sur les trois attitudes que vous avez vues. Une hypnotiseuse qui brandit en quelque sorte des études scientifiques pour justifier la réincarnation, ou des cas de réincarnation observés. Quelqu'un qui fait tout, alors la personne qui a eu ces expériences d'hypnose, qui fait tout pour débarrasser sa maison de ses fantômes, tout en disant que tout ça est dans la tête, et un officiant rituel qui, en off, a fini par dire à l'hypnotiseuse que les textes ne fallait pas forcément tout prendre à la lettre, sur ce qui était dit sur la transmigration, parce que c'était uniquement pour rassurer les vivants. Alors, la transmigration, c'est aujourd'hui en Inde une sorte de plan limite d'expérience pour une foule de gens qui non seulement spéculent et font des théories, mais parfois aussi font leurs propres enquêtes et montent même des vrais protocoles d'expérience dans un esprit quasi scientiste. Et l'hypnose régressive, je vais le montrer, tout à l'heure, ça relève à la fois de l'expérience et de l'enquête. Et ça a beaucoup de succès en Inde. Mais vous avez aussi des groupes de chasseurs de fantômes, par exemple, qui ont surgi un peu partout, qui répondent à des commandes de gens qui leur demandent de venir détecter des présences chez eux pour s'en débarrasser, et qui s'installent avec des appareils magnétiques, des enregistreurs d'ondes radio, et qui essayent de capter des voix au milieu des bruits parasites. Alors, les chasseurs de fantômes ont aussi leur propre théorie sur les champs magnétiques, sur ce qui se passe à cette échelle de la réalité, si vous voulez. Et tout cela comporte son lot d'énigmes qui demandent enquête. Comment des concrétions énergétiques peuvent se former et donner des personnes dans l'invisible, si vous voulez. Et comment détecter de la personne à cette échelle, dans cette basse couche du réel, c'est un vrai débat pour tous ces gens. Alors, j'avance et c'est le deuxième
extrait. Apni ki British de sahajjo korechen? Apni ki British de sahajjo korechen? আপনি কি ব্রিটিশদের সাহায্য করেছেন? আপনি কি কসাই ছিলেন? আপনি কি কসাই ছিলেন? আর ইউ আর এক্সিকিউশনার? আর ইউ আর এক্সিকিউশনার? No. You can ask in English also. He's, I think the person is known English. English. Okay. You can repeat two or three questions in English. Okay. You are from which country? You are from which country? What is your name? What is your name? Can you tell us any one of the name present over here? আপনি কি কোনো একজনের নাম বলতে পারবেন? আমরা যতজন আছি তার মধ্যে আপনি কি কোনো একজনের নাম বলতে পারবেন? Stop the echo box.
I feel the heat again.
It's not that much cold anymore.
Yes. I also can feel the heat. My hand is not so cold now.
Yeah, yeah.
It become very hot. Both hand. Still have something. Apni ki chaichen amra ekhan theke chole jai. Tahole er batir moddhe signal din. এখানে লাইট জ্বললে আমরা বুঝে যাব আপনি চাইছেন আমরা চলে যাই এখান থেকে। Yes. She want
to leave the place.
Leave the place.
We have to leave the place.
He wants
us to leave the
place.
We
leave the place. Yes.
Yes.
We should not stay here
for more than
this.
Yeah.
Seconds. It's giving signal for the leave the place.
So yes, thank you. We are obeying
you.
Your rule.
Respect you.
Hope you will not follow us.
Hope you will not follow us.
Yes.
And we are moving now and left this place with you.
Okay, thank you for the communication. We are leaving now. Thank you very much.
Thank you very much.
Thank you. Hope we will hope will you will follow. Not follow us.
Mm-hmm.
Okay.
Thank you.
Thank you.
Ils ont un peu de mal à partir. Alors, ces appareils sont tout à fait intéressants. C'est qu'ils brouillent les champs radio comme si vous passiez sur des radios à toute vitesse. Et donc, ça fait comme ça. Et puis, vous posez des questions et en attendant d'avoir des réponses. Alors, les réincarnés, je dirais, d'un côté, les fantômes de l'autre, antise et réincarnation, c'est un peu les deux faces d'un même circuit spectral. Et c'est ce circuit, au fond, qui pose question et qui demande d'inventer des protocoles techniques, des protocoles d'enquête, parce qu'il a probablement une consistance ou un comportement qui nous échappe totalement et que les textes anciens n'ont pas forcément réussi à pénétrer. En tout cas, c'est de cette hypothèse que partent les gens que vous avez vus avec leurs appareils et plus largement tous ceux qui ont voulu refondre ce que nous savons en la matière sous l'influence des sciences expérimentales depuis la fin du 19e. Alors l'Inde s'est imposée comme un terrain privilégié pour ceux qui ont vu dans la transmigration une frontière de la science qu'il fallait à tout prix éclaircir. Le Mahatma Gandhi avait lancé dans les années 30 une commission d'enquête pour analyser un cas qui était devenu célèbre et qui a été très discuté ensuite, celui de Shanti Devi, qui était une jeune fille originaire de Delhi, qui proclamait avoir une vie antérieure. Et la conclusion du rapport, c'est qu'on ne pouvait pas trancher sur le statut de ces réminiscences qu'elle avait. Et les recherches expérimentales, à partir de là, se sont fondées sur l'examen minutieux de cas de réincarnation proclamés. Le plus connu des chercheurs en la matière, c'était Ian Stevenson, un psychiatre canadien qui, à partir des années 50, fait des recherches à peu près partout dans le monde, je dirais de la Birmanie en passant par l'Inde, il va chez les Tlingits, et qui vise à attester par tous les moyens de l'existence de la réincarnation. Et ses assistants indiens continuent encore aujourd'hui à soumettre les proclamations des gens qui se disent réincarnés à des épreuves de vérité à coup d'enquêtes quasi policières. Ils soumettent toutes les familles des gens concernés à des interrogatoires et ces cas continuent régulièrement de défrayer la chronique. Ça survit comme des anomalies, des faits divers. C'est pas quelque chose de très normal de se souvenir de ses vies antérieures, et c'est pas forcément valorisé. On dit souvent d'ailleurs qu'un enfant qui s'en souvient meurt prématurément. Mais c'est réminiscent, ça fait toujours événement et ça demande enquête. Alors, les expériences et les dispositifs les plus intéressants, je dirais, en la matière, aujourd'hui, qui contribuent à modifier l'idée qu'on se fait de la transmigration, c'est ceux qui considèrent qu'il faut la provoquer ou simuler des phénomènes qui lui seraient apparentés. Et je vais parler de l'hypnose tout à l'heure. Je crois qu'il y a une sorte de mutation qui est en train de s'opérer, un verrou qui est en train de sauter par rapport à l'époque où tout le monde était obsédé de vérité. Je dirais, en gros, depuis la fin du 19e jusqu'au début du 21e siècle. Aujourd'hui, il faut simuler la transmigration pour la comprendre. Et c'est de ce stade bien particulier dans la vie de la transmigration comme matrice, si vous voulez, dont je vais parler, parce que c'est décisif pour comprendre comment on en arrive ensuite à la transmigration électronique. Alors, Michel Hulin l'avait bien montré, de manière classique, la croyance en la réincarnation s'est appuyée sur deux types de déductions, au fond. Des expériences mystiques, extatiques, ou de méditation profonde, des états exceptionnels de conscience, et des expériences d'hypermnésie aux frontières de la mémoire. Ce que les brahmanes ont su glaner, si vous voulez, de la cybernétique, de la transmigration, l'idée qu'il existerait, par exemple, une sorte de part de soi intangible, quelque chose de partagé avec non seulement tous les autres êtres vivants, mais aussi avec tous les autres constituants de l'univers, à commencer par l'univers en personne, le Brahman, Hulin nous dit que ça se conçoit très bien comme des déductions d'expériences mystiques. De même, l'idée qu'on puisse avoir été quelqu'un d'autre, avoir eu des vies antérieures, ou qu'on abrite une sorte de grappe de personnes antérieures. Alors, l'idée que le samsara serait une sorte de grande mécanique cosmique, à combiner et recombiner des traits singuliers et à générer des synchronicités hasardeuses, qui seraient au fond les individus, ça se conçoit mieux en revanche à partir des expériences d'hypermnésie. Ce sont des anomalies. Alors c'est souvent des enfants qui en sont les victimes, entre 4 et 7 ans, qui disent se souvenir de vie antérieure et font généralement des récits traumatiques. Des cas qui ont été largement étudiés, donc comme je le disais tout à l'heure, par Ian Stevenson, qui... Alors, il y aurait beaucoup à dire sur Stevenson. Ce qui est intéressant, c'est qu'il examine les traces de naissance, parce que souvent, les enfants réincarnés portent des traces corporelles de leur existence antérieure. Et il essaye de vérifier si la réincarnation est plausible dans chaque cas, s'il n'y a pas eu de contact, en gros, entre l'hôte et le parasite, si je puis dire, celui qui se dit réincarné et celui dont on pense qu'il est la réincarnation. Et ces cas sont troublants car ils connectent au fond des gens singuliers appartenant à des univers éloignés qui se trouvent avoir eu un passé commun. Et ce que Stevenson déduit de toutes ces anomalies, c'est qu'il y aurait un genre de piratage embryogénétique ou cryptogénétique qui se produirait à une échelle inconnue du vivant. Et ces derniers travaux, les plus intrigants, j'irais même presque les plus fous, invite les épigénéticiens à prendre au sérieux l'idée de la réincarnation. Alors, je ne vais pas m'intéresser à l'épigénétique aujourd'hui, mais je dirais que si la transmigration est si intéressante, ce n'est pas seulement à cause du décentrement de l'humanisme qu'elle permet d'opérer, un décentrement qui est un peu paradoxal, parce que la dissolution de la personne est aussi synonyme de sa prolongation et de son extension. C'est quelque chose qu'on va retrouver aussi bien dans le transhumanisme que dans les versions orientales, je dirais. Mais c'est parce que ceux qui s'y intéressent, qui s'intéressent à la transmigration, cherchent à bousculer les frontières de la science. La transmigration comme matrice, si vous voulez, c'est un espace d'anomalie extraordinaire aux frontières du vivant, aux frontières de la personne et de la mémoire. Un genre de matrice parasite qui se donnerait à voir d'abord à travers des indices, des formes de piratage biologique, si on suit Stevenson, des exports de fragments de mémoire, des transferts de mémoire qu'on ne s'expliquerait pas, des identités hackées, quelqu'un se découvre une parenté commune non biologique avec quelqu'un d'autre. Et c'est probablement ce qui a poussé le Dalai Lama, dans une conférence récente, à faire l'analogie entre le karma et les algorithmes, vu tous les deux comme des sortes de programmes pirates, des genres de spyboats, si vous voulez, qui pourraient s'accrocher et résider en nous et dont il faudrait prendre conscience. C'est un peu ça la version moderne du karma. Alors, il y a une chose qui nous empêche d'avaler un peu trop vite cette analogie, même quand c'est le Dalai Lama qui parle, c'est que le transhumanisme court en fait après une sorte de prolongation, je dirais, un peu désespérée et souvent morbide des personnes. Alors que dans les formes orientales, hindoues, bouddhistes, la réincarnation est vue comme ce à quoi il faut échapper à tout prix. C'est d'ailleurs un malentendu très ancien qui avait bien pointé René Guénon dans un livre qui s'appelait « L'erreur spirite ». Il avait montré que les versions orientales ont toujours considéré, d'une certaine façon, la réincarnation comme quelque chose de terrible, dont il fallait se libérer, alors que les spirites du 19e, en gros, ont vu en elles un moyen d'augmenter l'individu et la possibilité pour lui de se racheter. Et ils ont débouché sur une forme égocentrique de réincarnationnisme, un genre d'individualisme spectral augmenté. Je dis spectral parce que c'est dans l'invisible que ça se passe, bien avant que les transhumanistes l'envisagent par le biais des machines. Alors, il est encore trop tôt pour... Je vais montrer quand même une photo amusante du Dalai Lama. Parce que... Voilà, c'est pas de ça, cette phrase. Il est encore trop tôt, évidemment, pour dire, dans ce paysage, je dirais, contrasté de modèles de transmigration dont il faudrait faire l'histoire un peu mieux que je le fais, entre les versions bouddhistes, hindous, spirites et autres que je ne mentionne pas, quelle forme sera la plus apte à pactiser avec les machines, la plus techno-compatible. Il faudrait pouvoir pénétrer dans la tête du Dalai Lama quand il donne sa bénédiction à ce grand projet de mind uploading intitulé Avatar 2045, qui était financé par un investisseur russe et qui nous promet pour bientôt la possibilité de télécharger son cerveau, puis pour ce cerveau ensuite de téléopérer un simulacre. Alors c'est l'image que je crois que je vous ai montrée déjà tout à l'heure. Alors, peut-être qu'on ne peut pas encore dire exactement quelle sera la version de la transmigration la plus technocompatible, mais on peut le deviner. Parce que ce sera forcément un simulacre de transmigration où la question se posera de ce qui survit d'un simulacre à l'autre. J'imagine bien brahmanes et bouddhistes repartir dans une nouvelle polémique à propos des machines et les bouddhistes trancher à nouveau, rien de l'ordre du soi dans un ordinateur aurait pu dire Nagasena en 150 avant Jésus-Christ. Mais le Dalai Lama paraît pas du même avis. En tout cas, enfin, c'est ce qui semblerait surgir de ces déclarations sur la possibilité, au contraire, technologique, de faire migrer la conscience. Alors, dans le paysage des techniques actuelles qui, je dirais, permettent de simuler sa transmigration, il y a une forme qui m'intéresse particulièrement parce qu'elle est en quelque sorte préalable à la forme machinée ou numérique et parce qu'elle permet peut-être de deviner déjà à quel problème on va être confronté. C'est une technique à la fois extraordinaire et très banale, qui est l'hypnose régressive, ce qu'on appelle la past life regression en anglais, enfin PLR. Alors, c'est d'elle dont je vais parler maintenant. La PLR, ça a été inventé en France à la fin du 19e, avant de disparaître quasiment et sous l'effet de la psychanalyse, et puis de revenir ensuite en force à partir des années 80. Et elle est devenue de plus en plus populaire en Inde dans les deux dernières décennies, à tel point que c'est aujourd'hui le moyen le plus courant pour les gens de prendre connaissance de leur vie antérieure. Pour comprendre l'origine de cette technique, il faut revenir à un personnage assez méconnu de la fin du 19e, le colonel Albert de Rochas, qui est l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle « Les vies successives », publié en 1911. De Rochas, c'est un personnage assez fascinant, qui était administrateur de l'école polytechnique et qui, en même temps, faisait des expériences d'hypnose, un personnage assez central, en fait, dans les milieux parapsychiques de la fin du 19e, à Paris. On lui doit une foule d'ouvrages, alors sur les corps astraux, la détection des effluves ou des auras, la lévitation, l'envoûtement. Il invente, je dirais, des tas de protocoles expérimentaux pour essayer de résoudre des énigmes aux frontières de la science. Et alors, il a par exemple, il est l'auteur d'un ouvrage sur l'envoûtement qui est absolument fabuleux, que je vous invite à lire. et qui est d'une rigueur et d'une systématicité incroyable. Et il essaye de tester, au fond, l'envoûtement sur quelqu'un pour éprouver comment ça marche. Mais il essaye de... il démonte l'envoûtement petit à petit. Alors, il prend des objets, il prend des aiguilles, des plaques photographiques, etc. Et il nous embarque comme ça dans un récit pour nous montrer comment l'envoûtement est possible de manière totalement expérimentale. Et il invente, au fond, l'envoûtement photographique via des plaques photographiques et des aiguilles. Alors, c'est un bijou de méthode expérimentale appliquée, si vous voulez, à l'envoûtement. Alors, les vies successives, c'est un journal de cas des expériences d'hypnose qu'il a menées avec ses patients. Il semblerait qu'il ait rencontré en fait la question des vies antérieures par accident, en menant un peu plus loin que d'habitude ses expériences, faisant remonter ses patients dans le temps jusqu'à leur enfance. Et il s'est aperçu qu'en poussant un peu l'induction, quand on demande à quelqu'un sous hypnose de s'imaginer qu'il a 18 ans, ensuite qu'il a 10 ans, qu'il a 5 ans, qu'il a 2 ans, etc., qu'on le fait régresser, si vous voulez, jusqu'à l'état fœtal, l'hypnotisé va se retrouver spontanément ensuite dans un nouveau corps. Je le cite, il dit « Son esprit, entraîné par une marche continue, soit dans le rajeunissement, soit dans le vieillissement, poursuit son chemin. » Et à la grande surprise de Dorochas, on peut régresser ainsi de sa naissance jusqu'à une mort antérieure, un corps antérieur, et parfois vers d'autres naissances préalables qui cachent d'autres morts et d'autres corps antérieurs. Alors, le livre de Dorochas s'intitule « Les vies successives » et non pas « Les vies antérieures ». Parce que ce que retient Dorochas, c'est que des états de corps se succèdent dans une certaine temporalité. Ce ne sont pas des souvenirs qu'on éveille, dit-il, ce sont les états successifs de la personnalité que l'on évoque. Et ce qui frappe Dorochas, c'est que la personne sous hypnose n'est pas spectatrice de ces scènes qui se dérouleraient devant ses yeux, mais bien actrice, propulsée dans un monde virtuel dont, à l'état conscient, elle ne soupçonne pas l'existence, un peu comme dans un jeu vidéo, si vous... mais sauf que le jeu vidéo n'existait pas à l'époque. Alors, je vais vous lire le cas, par exemple, de Joséphine, qui est un des cas qu'il a étudié, mis sous hypnose. Je vais peut-être ouvrir ça, comme ça vous pourrez suivre le texte en même temps. Alors, Joséphine, donc, un nouvel approfondissement de sommeil détermina la manifestation d'un personnage dont j'eus d'abord quelque peine à déterminer la nature. Il ne voulait dire ni qui il était, ni où il était. Il me répondait d'un ton bourru et avec une voix d'homme qu'il était là puisqu'il me parlait. Le sommeil étant devenu encore plus profond, ce fut un vieillard couché dans son lit et malade depuis longtemps qui répondit à mes questions, après beaucoup de tergiversations, en paysan madré qui craint de se compromettre et veut savoir pourquoi on l'interroge. Je finis par savoir qu'il s'appelait Jean-Claude Bourdon, et que le hameau où il se trouvait était Champvent, dans la commune de Polia, mais il ne savait pas dans quel département. Peu à peu, je parvins à capter sa confiance, et voici ce que j'appris sur sa vie, dont je lui ai maintes fois fait revivre les diverses périodes. Il est né à Champvent en 1812. Quand Dorochas fait régresser Joséphine un peu plus loin, il réalise qu'elle est née en 1702. Elle s'appelait Philomène Garpini, que son grand-père maternel s'appelait Pierre Machon et habitait aux Anges. Elle s'est mariée en 1732 à Chevroux avec un nommé Garteron, dont elle a eu deux enfants qu'elle a perdus. Avant son incarnation, Philomène avait été une petite fille morte en bas âge. Et auparavant, elle avait été un homme qui avait tué et volé, un véritable bandit. Et plus tard, Dorochas conduit Joséphine un peu plus loin que l'état de bandit. Et elle me dit alors, avec hésitation et en tournant la tête d'un air confus, qu'elle avait été un singe, un grand singe presque semblable à l'homme. Une autre fois, dans les mêmes circonstances, elle me dit qu'entre son état de bandit et celui de singe, elle avait eu plusieurs incarnations successives. Elle se souvenait d'avoir vécu dans les bois en tuant des loups. Alors, l'hypnose devient, à partir de là, pour Dorochas, un véritable mode d'enquête pour enquêter sur la mécanique de la transmigration. Et il multiplie les jeux de questions-réponses avec les incarnations avec qui il entame des dialogues. Donc, il se sert, au fond, de l'hypnotisé comme une sorte d'interface de communication pour en savoir plus, au fond, sur la transmigration. Système de relais à deux médiateurs, si vous voulez, l'hypnotisé et puis les incarnations de l'hypnotisé. Et alors, il faudrait idéalement relire l'ensemble des cas, mais vous avez certains sujets, par exemple, qui régressent, qui progressent aussi de manière continue, et d'autres de façon beaucoup plus chaotique, et certaines personnalités qui viennent même s'infiltrer entre deux incarnations quand on répète le processus. À la fin de la séance avec Joséphine, De Rochas choisit de la laisser suivre ce qu'il appelle sa courbe d'incarnation naturelle. Et il écrit « Dans cette séance, je me suis proposé de savoir ce qui adviendrait si, après avoir amorcé par des passes la marche en arrière ou en avant avec Joséphine, je laissais la nature agir seule. Je l'endors par des passes longitudinales et quand je l'interroge, elle a 15 ans. Je lui demande si elle me voit, elle me répond que non. Elle entend cependant ma voix et pense que c'est le diable qui lui parle. Cependant, elle n'a pas peur. Elle ne connaît pas M. De Rochas. Je l'abandonne alors à elle-même. Il est 1h30. À 1h40, je l'interroge de nouveau. Elle est assez longtemps sans me répondre. Quand elle me répond, elle a 10 ans. Elle ne me voit pas, mais m'entend. Elle est avec de jeunes compagnes qui ne m'entendent pas et lui disent qu'elle est folle. Sa sensibilité est extériorisée. 2h10, elle a 5 ans. 2h25, elle ne sait pas son âge. Elle tête sa mère et remue les lèvres comme en tétant. Elle tête mon doigt quand je le présente à sa bouche. 2h35, elle s'agite et paraît souffrir. Elle est Jean-Claude mort. Je la réveille alors par des passes transversales et je l'abandonne à elle-même quand elle a atteint l'âge de 2 ans dans sa vie actuelle. 2h50, elle a continué toute seule le mouvement imprimé dans le temps. Elle a maintenant 4 ans. Elle a mis un quart d'heure, pour vieillir de 2 ans. Si cela continuait de la même façon, il lui faudrait pour vieillir de 14 ans, de 4 à 18 ans, 7 quarts d'heure ou 1h3/4. Elle se réveillerait donc naturellement à 4h30. 3h10, elle a 9 ans. Elle m'entend et ne me voit pas. Elle suppose que ma voix est celle d'un ange. De 2h50 à 3h10, elle a vieilli de 5 ans en 20 minutes. La rapidité du réveil s'accélère. 3h25, elle a 12 ans. 3h40, elle a 14 ans. En construisant la courbe correspondant à ces données, on voit qu'elle arrivera à son âge actuel, entre 18 et 19 ans, vers 4h. 4h08, réveil spontané. Alors, ce que fait jaillir cette séance, c'est donc une courbe qui correspondrait à un rythme de progression, de régression, progression, si vous voulez, propre à chacun, de traversée de plusieurs corps. Mais De Rochas met en suspens tout jugement sur la nature de ce qui s'incarne. Est-ce que c'est des vies antérieures? Est-ce que c'est une sorte de roman subliminal qu'on se ferait à soi-même? S'agit-il véritablement de réminiscences ou de productions étranges où la mémoire et l'imagination seraient également impliquées? Il tranche pas vraiment. Il invente un genre de théâtre, au fond, où tout cela s'exprime dans son ambiguïté, et il laisse le lecteur se débrouiller avec tout ça. Il le dit lui-même, c'est trop mêlé, d'une certaine façon, les données imaginaires et les données qui pourraient sembler plausibles pour qu'on se prononce vraiment. Mais il y a quand même des choses très intéressantes dans tout ça. Par exemple, il y a une grande différence entre les séances d'hypnose et les séances médiumniques auxquelles les gens se livraient à l'époque. Dans les séances médiumniques, enfin spirites, les gens s'imaginaient volontiers être Marie-Antoinette ou Napoléon, ce qui fait que le spiritisme a été largement critiqué pour avoir nourri une sorte de réincarnationnisme mégalomaniaque. Et De Rochas ne cache pas d'ailleurs son scepticisme par rapport à ce que Guénon a appelé après lui une épidémie réincarnationniste qui serait emparée des cercles spirites à la fin du 19e. Les grands hommes se manifestent beaucoup plus volontiers que les autres. Il faut croire qu'il se réincarne aussi beaucoup plus souvent et même simultanément à de multiples exemplaires, dit Guénon. Il y a la même ironie chez Douglas Home, qui dit à propos des séances auxquelles il a assisté, un autre grand critique sceptique, si vous voulez, par rapport au spiritisme. J'ai eu l'honneur de rencontrer au moins 12 Marie-Antoinette, 6 ou 7 Marie Stuart, une foule de Saint-Louis et autres rois, une vingtaine d'Alexandre et de César, mais jamais un simple Jean-Jean. Alors, les hypnoses fournissent des données plus surprenantes que ces séances spirites, parce qu'elles font surgir une multitude de gens qui sont des illustres inconnus, des Jean-Jean. Et De Rochas est obligé d'aller faire son enquête ensuite, d'éplucher les cadastres pour voir si ces personnages ont vraiment existé. Il y a des détails historiques qui émergent et qui laissent perplexe. Alors que les séances spirites favorisaient la réapparition des grands hommes, les séances régressives surprennent à l'inverse par l'irruption de personnages inconnus. Ce sont presque exclusivement des oubliés de la grande histoire qui sont convoqués. Alors, au moment de trancher, De Rochas nous laisse sur une incertitude, et c'est, je crois, la beauté de son étude. Il ne nous dit pas que ce à quoi il a touché, ce sont des vies antérieures ou de la pure imagination. Mais il dit qu'il y a peut-être ici des formes inconnues de mémoire impliquées, des formes de mémoire ancestrale qui pourrait bien se manifester qu'après plusieurs générations, comme les ressemblances corporelles ou les maladies héréditaires, des fragments de mémoire qui voyageraient d'un individu à un autre par des voies que nous ne connaissons pas. Alors, je vais faire un grand saut historique parce que tout cela n'est pas fini, bien au contraire. La régression s'est retrouvée presque reprise en l'état où l'avait laissé de Rochas, dans toutes ses ambiguïtés, exportée en Inde à la fin du XXe siècle via des psychiatres américains qui l'ont adoptée et qui ont formé des tas de gens à cette méthode thérapeutique d'introspection. Ça s'est imposé comme une méthode pour résoudre des traumatismes, des phobies, ou simplement s'explorer soi-même. Il y a eu une banalisation de tout ça via les thérapies alternatives. En se dividuant dans des incarnations, le patient expulserait certains traumatismes, fournissant au thérapeute un riche matériau narratif sur lequel il peut travailler. Le simple fait de faire porter la responsabilité de difficultés présentes à des personnalités antérieures est reconnu comme ayant un effet libérateur au présent. Alors que la psychanalyse a jamais eu un très grand succès en Inde, on va voir des gens formés à cette méthode de psychothérapie ouvrir des cabinets un peu partout à une vitesse incroyable à partir des années 80. Aujourd'hui, c'est en pleine explosion, surtout dans les classes moyennes urbaines. Alors la régression est certes connotée New Age, mais il n'y a jamais eu autant de gens pour en faire l'expérience. Il y a même des émissions de télé-réalité qui font appel à des thérapeutes, qui font un grand renfort de spectacle, des hypnoses régressives. Alors, ce n'est pas forcément nécessaire de croire à la réincarnation pour faire une régression. Et on peut être sceptique et s'adonner à l'expérience, et on n'est pas obligé d'y voir non plus des vies antérieures. On peut aussi y voir une sorte de produit du subconscient ou encore des images surgies d'un fond mémoriel archétypal, si vous voulez, à la Jung. Un pur produit de son imagination ou une technique de visualisation, tout simplement, un genre de modèle virtuel à but thérapeutique. Les vertus des jeux de rôle sont d'ailleurs souvent invoquées par les praticiens lorsqu'ils sont attaqués pour justifier de la régression mémorielle aux yeux des sceptiques. Régime de simulation, donc, acceptable, relégué au pire dans le virtuel pour ceux qui n'y croient pas, mais un virtuel thérapeutique efficace. Et le meilleur moyen de prendre conscience de la courbe karmique dont nous sommes le produit, y compris pour les sceptiques. Alors, je vais juste vous montrer un extrait. C'est juste le début et la fin d'une hypnose d'une personne qui s'appelle Joy. Ah, il faut que je reprenne mon fichier.
So how did you die?
Alors, je vous montre simplement, c'est le tout début de l'hypnose et la fin. Je vais vous raconter ce qui s'est passé au milieu. Mais faites pas trop attention à toutes ces images qu'on a mises dessus, parce que c'est une version provisoire. Parce qu'on a essayé de montrer, de représenter la façon dont la mémoire va fouiller des images. Mais c'est très provisoire.
There were three Anandas. One, he died at the lap of one Ananda. There were two more Anandas. I was one of them. It is.
So how did you die?
Alors, Alors, c'est juste pour vous montrer les images en tête de la personne dont je vais parler. Alors, Joyce, c'est un cas amusant parce qu'il est astrologue. Il a des impressions de vertige comme ça. Alors, il va consulter un neurologue et rien n'est anormal. Et il décide de consulter une hypnotiseuse pour ses vertiges. Et à peine le mot d'hypnose prononcé, il rentre dans une espèce de transe profonde. Généralement, il faut que l'hypnotiseuse travaille dur pour mettre la personne dans un état de relaxation suffisant. Lui avait déjà les yeux révulsés et était déjà dans son univers. Et l'hypnotiseuse a tenté plusieurs fois de le réveiller pour l'asseoir plus confortablement, et sans jamais réussir. Et Joy finit par décrire, sous hypnose, la courbe précise de ses incarnations, alors ce qu'on ne voit pas dans le film, ça aurait été trop long et que je vais résumer. Assistant du Bouddha, en moins 600 avant Jésus-Christ, il a d'abord été lotus, perdu quelque part au-dessus du Canada à l'aube de l'humanité, puis vécu ensuite toute une série de réincarnations tragiques, torturé comme esclave noir, mort brûlé dans son champ alors qu'il était paysan dans le sud de l'Inde et s'appelait Murugan. Il endura de terribles souffrances avant de vivre une série d'incarnations animales, Pan, puis pure lumière au royaume des nymphes, mais pour des raisons à chaque fois différentes, il a échoué dans sa libération et est revenu sous une nouvelle forme. Alors, qu'un lotus se retrouve bodhisattva, donc assistant du Bouddha éveillé, au VIe siècle, c'est une progression assez compréhensible. Mais un esclave torturé, puis un pan, puis une pure lumière au royaume des nymphes, avant de se retrouver dans son corps à lui, c'est plus intriguant. L'hypnotiseuse a eu bien du mal à savoir si Joy pourrait retenir une leçon quelconque de ses incarnations successives, excepté le fait qu'il lui restait 25 ans à vivre avant de rejoindre le Bouddha à nouveau. Et s'il y avait une logique dans cette destinée, elle paraissait d'une certaine façon aberrante ou rebelle à toute progression. Joy est revenu cependant de ce voyage avec une information décisive. Il lui manquait encore le secret de l'immortalité que le Bouddha ne lui avait pas livré, bien qu'il avait été l'un de ses plus proches disciples. Autrement dit, il avait approché de très près sa libération du cycle des naissances, mais avait échoué, y retombant aussitôt ou systématiquement dans des espèces de formes aléatoires. Et Bouddha ne lui légua aucun message à transmettre. À quoi bon, dit-il ? J'ai toujours cherché à être pur dans ma forme. Et une autre information décisive, je n'ai jamais été une rose. Alors, voilà une belle courbe karmique. Elle est très belle parce qu'elle est extrêmement chaotique. Ce qui est amusant, et c'est une des caractéristiques, je dirais, de l'hypnose régressive, c'est que les gens se retrouvent généralement avec une courbe cosmique qui est faite de ruptures. Alors, il y a des continuités, mais il y a beaucoup de ruptures et des espèces de retours en arrière. Vous êtes homme, ensuite vous êtes animal, et de nouveau homme, etc. Donc, quelque chose de très flexible, et pas uniquement... où la personne, je dirais, n'est pas uniquement définie par ce qu'elle est, mais ce qu'elle peut être, ses possibilités. Et Dorochas, à mon avis, a très bien théorisé ça. C'est-à-dire qu'une personne, ce n'est pas seulement un combiné d'états, d'instantanés, c'est en gros la version bouddhiste, du soi qui faisait dire aux bouddhistes qu'il n'y a pas de soi intangible, mais c'est une manière de régresser, de progresser entre des soi possibles. On peut savoir qui est quelqu'un qu'en ramassant toutes ses formes, y compris imaginatives, et on comprend bien en quoi ce modèle annonce au fond la transmigration numérique, où la personne est définie à travers toutes ses extensions et ses traces comme une unité en extension et contraction autour de ses simulacres qui risquent toujours de nous confondre sur sa véritable localisation ou son noyau dur. La régression, en se généralisant et en se démocratisant, a popularisé l'idée que le samsara était une sorte de matrice parasite qu'il fallait faire parler, pourvoyeuse de messages, annonçant en même temps qu'elle en simule, je crois, quelques-unes des propriétés, la transmigration numérique. Ou en tout cas, elle semble être rétrospectivement la répétition, avec des moyens purement psychiques, pas encore machiniques, de cette forme de transmigration séculière, mais imbibée de religiosité, qu'est la transmigration numérique et qui veut faire de nous des administrateurs de toute une série de formes, simulacres et avatars de nous-mêmes. Alors, à partir du moment où on a rejeté l'idée qu'on puisse véritablement répondre à la question de savoir si on pouvait avoir de la transmigration des preuves irréfutables, à moins de mourir soi-même, la question, ça a été davantage de savoir dans quelles conditions on pouvait mourir pour de faux. Et quand ce problème-là, va rencontrer, je dirais, celui de l'intelligence des machines, ça va faire un cocktail un peu détonnant. Et c'est un peu la phase dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Je rappelle un des enjeux, je dirais, du test de Turing, par exemple. Turing se dit, la question de savoir si l'intelligence les machines sont intelligentes, ce n'est pas une question qu'on peut trancher, en réalité. Il faut plutôt s'interroger sur les conditions dans lesquelles une machine peut nous tromper sur le fait qu'elle pense. Et d'une certaine façon, il s'est un peu passé la même chose dans l'histoire de la réincarnation, si vous voulez. Le débat étant, dans la mesure où on ne peut pas forcément la prouver, dans quelles conditions on peut la revivre, au fond, de manière simulée. Alors, l'intérêt de la régression, c'est justement d'offrir aux gens la possibilité de simuler leur transmigration en mourant pour de faux, en simulant leur propre mort et même des morts au pluriel. Franchir ce moment de singularité critique, je dirais, où ils vont mourir et renaître dans un autre corps que le leur. Et tout le travail de l'hypnotiseur, c'est de permettre aux patients de franchir ce seuil, sachant que la conséquence d'un tel dispositif de simulation, c'est pas seulement de banaliser la transmigration en faisant une expérience à la portée de tous ou un outil de simulation à des fins thérapeutiques. C'est d'opérer une sorte de déplacement épistémologique de la mort au cœur du vivant. Au lieu de situer la mort à la fin du vivant, comme une sorte de singularité, de stade ultime, en gros, on l'éprouve comme un état transitoire de soi-même, un état du vivant, une petite singularité, un moment inévitable, dans un processus de régénération continue. Alors, évidemment, ça ne peut s'envisager, cette mort, qu'avec, je dirais, un fond qui est toujours plus vivant. Ça, c'est une chose. Et l'autre aspect, à mon avis, important, c'est que la régression généralise au fond l'idée qu'un individu peut en cacher un autre ou qu'il pourrait bien être autre chose que ce qu'il croit être, habité par d'autres qui lui sont étrangers, l'hôte d'une multitude invisible. Un autre aspect important, c'est que les patients qui se retrouvent au terme du processus de régression avec une liste plus ou moins étendue de vies antérieures, avec des fragments de mémoire dont ils ne savent pas très bien s'ils sont imaginaires ou quelle est leur pertinence, ils se mettent à mener l'enquête, comme pourraient le faire des historiens amateurs. Guidés par la pertinence de certains détails, ils tentent de vérifier leur vision, ils se mettent à faire des recherches, ils retournent sur des lieux qu'ils ont vus sous hypnose, ils fouillent dans les archives, et il y a des forums aujourd'hui où les gens échangent sur leur vie antérieure et font leurs propres enquêtes, poussant parfois leur introspection très loin. Je crois que le maximum que j'ai trouvé, c'est 68 vies successives. La conséquence de tout ça, c'est que les récits de vie sont plus qu'ils étaient, ils s'étendent, des gens réalisent qu'ils abritent un genre de communauté invisible dont les membres sont liés par des transmissions de résidus karmiques et qui pourraient bien être, en bout de chaîne, le produit d'un genre d'accident cosmique ou ce qu'on pourrait appeler un bug karmique. Et en Inde, nombreux sont les gens qui s'imaginent avoir été sadhus dans leur vie antérieure, à deux doigts de sortir enfin du cycle des naissances, mais par un accident ou un bug, ils ont été propulsés dans leur corps actuel et se demandent quelle peut bien être leur mission. Vous avez de nombreuses femmes aussi qui se retrouvent en combattant de l'indépendance et à qui il arrive même de commettre sous hypnose des attentats contre des généraux anglais. Alors, on peut rester prisonnier du vieux débat sur la véracité des vies antérieures, mais d'une certaine façon, c'est passer à côté de ce qui fait l'intérêt de la chose. Des formes souvent incongrues de piratage de l'histoire se font ici. Il y a autant de chances pour un Indien, au fond, de se retrouver sous hypnose en sadhu ou en pleine colonisation anglaise que pour un Français d'avoir joué un rôle dans la Révolution française, participé à la prise de la Bastille ou vécu sous Napoléon. Mais ça n'explique pas pourquoi tel ou tel personnage singulier, comment la mémoire coagule en chacun de nous selon des chemins qu'on ne soupçonne pas toujours et comment des personnages et épisodes oubliés pourraient bien se manifester au moment où on s'y attend le moins. C'est toujours pour nous dire, au fond, quelque chose. On attend un message, une information manquante sur nous-mêmes, tout droit venue du samsara. Et c'est cette information manquante qu'on vient chercher. « Je n'ai jamais été une rose », disait Joy. Alors, ceux qui critiquent la régression, ils ont été nombreux, ont bien souvent retenu deux choses. La dividuation, ou le fait que les réincarnations peuvent être provoquées sur commande, personnalité multiple induite, et induction de fausses mémoires de l'autre. Alors, il y a eu des controverses qui ont été bien étudiées autour des débats sur les personnalités multiples aux États-Unis à partir des années 80, où les psychothérapeutes qui pratiquent ce genre de régression deviennent les cibles de toutes les critiques accusées d'induire des personnalités fictives chez les gens. Alors, on ne peut pas toujours dire que tout a été induit dans ces hypnoses quand on les observe, justement. Et je crois que l'épisode que je vous ai montré de Joy était tout à fait exemplaire, car Joy s'est fait un peu son cinéma tout seul, sans aucune intervention véritable de la part de l'hypnotiseuse, sauf qu'il le relançait dans ses questions. Alors, l'hypnose tire parti des possibilités bien connues de la dividuation, dont le cerveau est finalement le meilleur allié, et c'est la raison de son succès en Inde et ailleurs. Mais je crois qu'il y a autre chose ici qui est très important et qui a été souvent sous-estimée. Les critiques de la régression se sont plus concentrées sur la façon dont l'individu en vient à se diviser, pas tellement à la manière dont on reconnaît des formes, des personnes, mais pas uniquement, des objets, des lieux. Les psychologues ont un mot magique pour désigner ça, c'est la pareidolie, ou ce qui nous pousse à voir dans des nuages, de la fumée ou une tache d'encre, une forme familière. C'est un peu les mêmes problèmes qu'on a vu avec les chasseurs de fantômes quand ils cherchent à détecter des mots dans des syllabes. Cette capacité du cerveau, qui apparaît profondément stimulée sous hypnose, c'est d'une certaine façon, je crois, l'un des enjeux majeurs de la régression. Ce qui fait que les séances d'hypnose, c'est un matériau rêvé pour étudier la façon dont on détecte des formes. Et parfois, elles ne vont pas du tout de soi, et parfois, elles s'imposent comme des évidences. Il faudrait analyser en détail les séances, bien plus que je le fais maintenant, pour saisir ce qui se passe ici en termes de reconnaissance des formes. Mais je crois que c'est beaucoup plus riche que ce qu'on en a dit. Alors, Dorochas distinguait, montre son modèle. Ah non. Dorochas distinguait 5 états de léthargie, des états gradués, si vous voulez, qui vont de la crédulité à la sympathie à distance, et qui varient en gros d'une sorte de demi-sommeil jusqu'à des états de transe. Alors, dès qu'on a affaire à des états modifiés de conscience, l'enjeu, c'est toujours un peu le même, c'est d'arriver à sortir du grand partage entre hallucination et réalité pour distinguer des états gradués. Et Dorochas avait ce problème, donc il fait sa gradation. Mais ce qui l'intéresse, c'est comment dans ces états, le patient devient plus ou moins réceptif à la suggestion, pas vraiment la façon dont se forgent des images mentales et des effets de présence ou de personnes à l'intérieur des cerveaux. Or, c'est quand même important, parce que la façon dont on en vient à reconnaître des personnes, des choses, des lieux, c'est ça qui est en jeu dans l'hypnose, qui a tout d'un cinéma mental qui chercherait à passer du flou à la haute résolution dans la qualité des images. Comme le disait Alfred Binet à propos des images mentales, c'est pas leur véracité qui importe, c'est leur intensité. Et le rôle de l'hypnotiseur, c'est d'abord d'aider son patient à voir clairement des choses, à les identifier tel un machiniste l'aiderait à naviguer dans son film intérieur. Et le patient est à la fois l'acteur, le réalisateur et le commentateur de son film, puisqu'il explique ce qu'il voit à l'hypnotiseur. Dans la configuration la plus banale, l'individu va avoir prise sur ses images mentales comme un film et faire évoluer son personnage sur son écran mental. Et l'hypnotiseur va intervenir beaucoup pour le guider. L'hypnotisé est réalisateur de son film, en quelque sorte, et sort de l'état d'hypnose en sachant qu'il s'agissait de quelque chose de fictionnel. Il fait bien la distinction entre le film et ce qu'il n'est pas, entre l'état d'acteur, de spectateur ou de réalisateur. La série des vies antérieures est alors reléguée dans l'imaginaire. Mais il y a d'autres états où c'est plus compliqué, où savoir si on est réalisateur, acteur ou spectateur de son film est beaucoup plus trouble. Comme un cinéma où on passerait son temps à échanger les positions. Des événements vont prendre l'hypnotisé par surprise et s'imposer à lui, ou des personnes apparaissent sur son écran mental comme des images subliminales, surgies de nulle part. Vous êtes tantôt acteur, tantôt spectateur. Au réveil, l'hypnotisé va avoir tendance à accorder une importance plus grande à ces événements qui lui sont étrangers et qui se sont imposés à lui, autrement dit, au moment où il est spectateur. Et dans les états de transe plus profonds, alors peut-être qu'on est au fond ni réalisateur, ni spectateur, ni acteur, mais l'écran lui-même, au réveil, on ne se souvient pas de ce qui s'est passé. Et dans ces états, quand l'hypnose relève de l'expérience extatique, il semblerait qu'il se passe quelque chose de différent, que le samsara dévoile plus clairement sa nature de circuit aberrant, et on l'a vu avec Joy. Il semble nous en dire un peu plus, en tout cas, sur ses propres règles, ou cette absence de règles, sa nature de matrice parasite, de cycle mal réglé, quelque chose de très désordonné, de rebelle au fond, qui viendrait déranger le cours normal, historique des choses. Alors il faudrait analyser tout ça mieux que je le fais, mais je crois, pour finir, que la régression a créé au moins deux choses. Elle a ouvert un espace de fabulation extraordinaire, et j'ai à l'esprit la définition que Deleuze donne de la fabulation plus que l'idée d'imaginaire. Ce qui s'oppose à la fiction, dit-il, ce n'est pas le réel, ce n'est pas la vérité, c'est la fonction fabulatrice des pauvres. La régression a transformé le cerveau ou l'espace intérieur en un espace politique de piratage historique, plus habité que jamais, soumis à des effets de pareil de lit constant, y compris au plus profond de nos images mentales, potentiellement piratables par une multitude de personnes parasites. Et elle a ouvert autre chose, il me semble, c'est une brèche qui ne s'est jamais vraiment refermée depuis que De Rochas l'a ouverte, dans une zone aux frontières de la mémoire dont on ne sait pas grand-chose. Il faut expliquer d'un point de vue cérébral les réminiscences, les impressions de déjà-vu. Et depuis De Rochas jusqu'à aujourd'hui, c'est toutes les sciences de la mémoire à qui on va demander de se prononcer sur l'existence d'une mémoire ancestrale, d'une mémoire cellulaire, d'une mémoire génétique, dans ces zones mémorielle que la raison ignore. Et c'est dans cette zone que la transmigration numérique prospère, faisant le pari qu'en la simulant, ou en la matérialisant par la technologie, on pourrait aussi régénérer celle-ci. Voilà. Sur ce, bonne transmigration à tous.